Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Portrait d'Assaut, l'émission pour mieux connaître les acteurs et actrices et les élans de coopération qui font vivre notre territoire. Une émission qui est réalisée en partenariat avec le comptoir des Assauts. Aujourd'hui, nous vous présentons l'APC05, Association de Protection Civile des Hautes-Alpes. Et pour ce faire, nous accueillons son président. Bonjour Bruno Monnier.
Bonjour madame.
Vous êtes bénévole donc à la Protection Civile, comme tous ses membres. Et nous reviendrons d'ailleurs là-dessus. Que faites-vous par ailleurs Bruno ?
Alors moi, je suis un ancien gendarme du secours en montagne et aujourd'hui, je suis guide de haute montagne et moniteur de ski. Et puis, de temps en temps, formateur aux crêtes de Briançon, je m'occupe des stages sécurité en montagne.
Et depuis combien de temps vous vous êtes engagé dans cette association ?
Alors, je suis arrivé à la Protection Civile des Hautes-Alpes en 1994, donc 31 ans.
31 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous investir ?
Alors, c'est mon passé professionnel. Je venais d'être muté en 1986 au PGHM de Briançon et pour remettre à jour mes compétences de secourisme, je me suis rapproché de la protection civile puisqu'à l'époque, la gendarmerie n'avait pas de centre national de formation en secourisme. Et donc, je suis venu à la protection civile, j'ai rencontré ces gens-là, j'ai fait tous mes recyclages, mes formations avec eux. Et puis, en 1994, j'ai décidé, en parallèle de mon métier, de venir aussi donner main forte à cette association où j'ai trouvé des gens extrêmement passionnants et généreux.
Et vous en êtes devenu président. Vous avez été élu président ?
Oui, à cette époque-là, un peu comme aujourd'hui, on a quand même un peu du mal à trouver des gens qui veulent s'investir dans des postes du conseil d'administration. Donc, il n'y avait pas spécialement de personnes volontaires pour prendre le relais de Madame Toselli, qui avait été longtemps notre présidente départementale. Et donc, je me suis engagé et j'ai été élu en 2003 jusqu'en 2011, président départemental de la protection civile. Ensuite, il y a eu une période où j'ai été président d'honneur. Puis en 2021, de nouveau vice-président et depuis 2024, réélu président départemental.
Une longue carrière de bénévolat dans cette association de protection civile. Alors la Fédération nationale, la protection civile est bien connue en France, peut-être un petit peu moins dans les Hautes-Alpes, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans ce portrait d'assaut aussi. Elle est notamment souvent confondue avec la sécurité civile. Il y a un maillage un peu dense et un peu compliqué des secouristes bénévoles ou professionnels. Justement, j'aimerais qu'on redéfinisse tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ?
Oui, alors globalement, on a d'une part les services de l'État, ce qu'on appelle la sécurité passive. Donc on a les sapeurs-pompiers, la sécurité civile, ce sont des militaires du ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est les moyens de l'État. Et on peut y mettre aussi la gendarmerie et la police. Et puis d'un autre côté, on a le système axé sur le citoyen. Et là, on a toutes les associations agréées de sécurité civile, dont font partie la protection civile, mais aussi la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, enfin un grand nombre d'associations qui sont agréées, qui sont quand même gérées par le ministère de l'Intérieur. Mais voilà, c'est deux filières, une partie de l'État et une partie un peu le citoyen.
Mais vous avez les mêmes missions ?
Alors, effectivement, dans le cadre de l'urgence, les services de l'État seront projetés rapidement sur place. Et dans un deuxième temps, les préfets, je pense notamment à des grosses opérations de plan hors sec, pourra faire appel à nos services pour venir renforcer les services de l'État qui seraient un petit peu occupés
à d'autres
missions.
Vous venez en soutien en fait, vous êtes en soutien de toute cette sécurité civile.
Exactement, voilà.
Et donc cette protection civile, donc cette fédération protection civile au niveau national toujours, quand et pourquoi a-t-elle été créée à l'époque ?
Alors pour refaire un petit peu d'histoire, il faut remonter en 1958 où simplement des citoyens d'un département, des Côtes d'Armor, ont décidé de venir en aide à leurs concitoyens. Et donc ils ont créé une petite association de protection civile. Cinq ans plus tard, il y avait déjà 26 départements qui ont suivi leur exemple. Et puis donc en 1965, devant cet engouement, le général de Gaulle avait demandé à son premier ministre, Georges Pompidou, de faire quelque chose de beaucoup plus cohérent et de réunir l'ensemble de ces associations qui se créent, d'initiatives citoyennes, et de créer donc une fédération nationale de protection civile. Et c'est ce qu'ils ont fait en 1965.
Donc il y a vraiment quand même une mission de service public que vous assumez. Alors, comme toutes les associations, mais là, vous êtes vraiment en lien, vous pouvez être réquisitionné si besoin.
Ah, complètement. À tout moment, un préfet peut nous demander d'intervenir, le maire d'une commune, le département peut nous demander éventuellement de venir en aide sur une situation bien particulière.
Et là, il s'agit bien de toutes les associations dont on parlait tout à l'heure qui sont de cette protection civile, y compris la Croix-Rouge, je ne les ai pas tous en tête, mais...
Oui, la Croix-Blanche.
La Croix-Blanche, ouais. Tout ça, vous, entre vous, par contre, vous avez les mêmes missions, on est d'accord.
Voilà, il nous faut quand même, bien entendu, hein, c'est réglementé en France, et toutes les associations de sécurité civile, un numéro d'agrément, sont gérées quand même par un service d'État au ministère de l'Intérieur. On ne peut pas non plus créer une association comme ça de secours sans référer et sans avoir les numéros d'agrément au niveau national.
D'accord. Et vous, dans les Hautes-Alpes, vous avez créé cette association locale en quelle année ?
Alors, c'était en 1972 et c'était à Gap. Et à l'époque, ils avaient créé deux antennes, une à Gap et une à Briançon. Et puis, au fil du temps, petit à petit, il y a eu plus d'adhérents à Briançon. Donc, en 2011, l'association départementale s'est localisée à Briançon parce qu'on avait la chance à Briançon d'avoir des bâtiments qui avaient été mis à notre disposition par la municipalité de l'époque. Donc ça nous a facilité grandement la tâche puisque souvent, pour faire nos formations, pour mettre notre matériel, c'est souvent dans nos appartements, dans nos maisons.
Que vous avez toujours. Les bâtiments qui sont mis à votre disposition sont toujours les mêmes.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2011, on a eu donc les bâtiments où se sont installés maintenant les nouveaux locaux des services techniques de la ville de Briançon. Donc, de 2011 jusqu'en 2017, on a pu bénéficier de ces locaux. Et quand les services techniques ont été reconstruits, donc nous, il a fallu qu'on déménage et il n'y avait pas à Briançon l'équivalent. Donc, on ne savait plus trop comment faire. Et là, en fin de compte, on a cherché. Et puis il y avait un cabinet dentaire qui était géré par la mutuelle d'action sociale du 04 et du 05 qui avait des locaux rue Paul Blain et ils nous ont permis de les acheter. Bien sûr, en baissant énormément le prix, puisque il fallait quand même.
Mais vous les avez achetés.
On les a achetés, donc depuis 2017, l'avantage, c'est qu'on est d'une manière pérenne dans ces locaux et qu'on n'a pas besoin de demander à la mairie des salles pour faire nos formations, pour mettre notre matériel, etc. Donc c'est beaucoup plus rationnel comme ça.
Rue Paul Blain, pardon.
Ouais, juste la petite place, la rue centrale.
D'accord. Et donc là, quand vous achetez ce local, c'est vous, l'association locale, ou vous avez un lien avec la fédération qui vous aide ?
Alors non. Nous, c'est vraiment local. La fédération peut nous aider ponctuellement, mais en fin de compte, c'est nous qui nous gérons complètement.
Hein. D'accord. Vous n'avez pas forcément de lien courant, quotidien avec la fédération. Vous êtes indépendant.
Non. Alors, là, on ne peut pas se passer, bien sûr, de la fédération, puisque la fédération nous délivre tous les numéros d'agrément pour pouvoir faire du secours, pour pouvoir enseigner. Donc, effectivement, la fédération, elle nous est indispensable. Elle a aussi la faculté d'avoir des agréments Calliope, c'est des certifications qui nous permettent de former les gens. Et ces gens, ils peuvent venir et profiter d'un compte... compte personnel de formation. Et donc, c'est grâce à la fédération que les gens peuvent venir se former dans ce cadre-là.
Et donc, toutes les associations qui font partie de cette fédération ont par contre des missions communes, qui sont les secours, la formation et l'aide. On va revenir dans le détail sur chacune. On va commencer par les secours. Vous proposez des postes de secours lors de manifestations sportives ou culturelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, donc on n'est pas dans le cadre de l'urgence à ce moment-là, puisque c'est les services de l'État, les sapeurs-pompiers qui font le service d'urgence. Hein. Nous, en fin de compte, on est prédisposés à venir en poste de secours. Donc c'est des personnes qui organisent des manifestations de secours, qui prennent attache avec notre responsable des postes de secours. Et puis à ce moment-là, on met en place un poste de secours sur une manifestation sportive ou culturelle. Donc en gros, en 2024, on a fait 53 postes. On appelle ça aujourd'hui des DPS, des dispositifs prévisionnels de secours. On en a fait 53 quand même sur l'ensemble du département. Et on peut être aussi amené à sortir du département des Hautes-Alpes et aller dans les départements limitrophes.
Pour cela, vous êtes, on vous demande ou c'est vous qui proposez et ensuite, c'est ce que vous faites payer ?
Alors, c'est les organisateurs qui nous demandent. Alors, bien souvent, ils n'ont pas vraiment le choix parce que les services de la préfecture, hein, quand il y a un nombre important de sportifs qui viennent sur l'événement, un nombre important de spectateurs, il faut assurer les secours. Donc les pompiers ne peuvent pas tout faire, hein, ils ont déjà leur propre mission à eux, donc ils se tournent vers nous. Et à ce moment-là, comme ils sont obligés d'avoir un poste de secours, ils se tournent vers les associations agréées de sécurité civile. Et souvent, dans les Hautes-Alpes, c'est vers nous, puisqu'il y a beaucoup de postes en montagne. Et on a la chance à la protection civile d'avoir pas mal de jeunes sportifs qui peuvent se mouvoir en altitude et aller faire des postes de secours principalement sur des trails en altitude.
Et quel type de secours vous pouvez fournir, vous ?
Alors, bien entendu, nous, on ne dispose pas d'hélicoptères. Vous avez bien compris qu'on a des moyens limités. Donc, on a un véhicule de premier secours qu'on laisse au départ et à l'arrivée de la manifestation.
C'est une ambulance, un véhicule de premier secours ?
Voilà, c'est une ambulance. La plupart du temps, c'est des vieilles ambulances qui sont réformées par les sapeurs-pompiers. Donc, ils nous font don de ces ambulances. On les a, nous, à charge de les repeindre comme on peut, en blanc, etc., à nos couleurs. Et puis, à ce moment-là, il y a 4 personnels qui restent près de l'ambulance, pour assister l'arrivée et le départ de la course. Et puis, il y en a d'autres qui vont monter en altitude avec un sac de premier secours, avec un défibrillateur semi-automatique, des fois avec de l'oxygène, pour venir en aide aux coureurs. Et c'est vrai que les trails dans les Hautes-Alpes, ça représente en gros 80% de nos DPS. Les 20% restants sur d'autres manifestations, les concerts, d'autres manifestations culturelles ou sportives, courses de VTT, de courses, etc.
Vous êtes sollicité parce que parfois ils sont obligés, de toute façon, ce que vous disiez, d'avoir un poste de secours sur place.
Complètement.
Au cas où.
C'est une obligation légale. La préfecture ne leur permettrait pas de mettre en place leur manifestation s'ils n'ont pas une équipe de secouristes pour assurer les premiers gestes de secours. Ensuite, on ne peut pas, nous, faire les transferts de ces blessés vers les centres hospitaliers. C'est où l'organisateur a pris attache auprès d'un service d'ambulancier privé. Ou alors, nous, on fait de toute manière chaque fois un compte-rendu au centre 15, qui est là pour gérer donc les secours sur le département. Et à ce moment-là, c'est eux qui vont décider de transférer la personne par un service de pompiers vers l'hôpital.
Vous êtes vraiment en intermédiaire, en fait. Premier secours, et ensuite, vous passez la main aux médecins, aux pompiers, enfin voilà.
Exactement.
À ceux qui sont professionnels, pour le coup, de leur métier. Pour cela, vous êtes formé, j'imagine. Vous formez en interne, et vous avez des entraînements régulièrement ?
Oui, alors, pour être membre de la protection civile, on peut venir faire d'autres missions, mais si on a envie de faire du secours à la protection civile, il faut être titulaire comme tous les secouristes de France, qu'on soit professionnel ou bénévole, d'un PSE1, premier secours en équipe de niveau 1 et premier secours en équipe de niveau 2, ce qui représente pour l'un 35 heures de formation, pour l'autre 28 heures. Donc il faut avoir ces deux diplômes qui sont recyclés toutes les années. D'accord. Et avec ça, on peut faire du secours à personne. Alors, bien sûr, on ne va pas se limiter à un entraînement par saison, obligatoire, mais on essaye de faire lors de journées de cohésion, des journées à thème où chaque secouriste peut demander un petit peu de réviser tel et tel geste de secours ou autre.
Et vous le travaillez ensemble, et vous pouvez le travailler ensemble parce que vous êtes aussi formateur. Dans ma transition vers votre deuxième mission, les formations, vous en proposez-vous ? Pouvez-vous nous présenter les différentes formations ?
Oui, alors la première formation de base, ce sont les gestes qui sauvent. C'est des éléments nécessaires pour sauver des vies, mais on fait très rapidement, c'est en l'espace de 3-4 heures. Ensuite vient le PSC, premier secours citoyen. Alors, que l'on propose généralement, ou c'est souvent les gens qui viennent vers nous pour le passer, souvent les gens qui font des brevets d'État, comme les moniteurs de ski, les guides, doivent être titulaires de ce PSC. Mais après, chaque individu, chaque citoyen peut se former à ce diplôme-là, qui dure 7 heures. Et l'an passé, 2024, on a formé en tout, entre le PSE 1, PSE 2 et PSC, 315 personnes sur le département, ce qui est plutôt pas mal pour une petite association comme la nôtre.
Pas négligeable. À part pour les professionnels qui viennent et qui... C'est la structure qui va payer, j'imagine, leur formation. Mais pour les autres ? Et
pour les autres, ils peuvent éventuellement, effectivement, s'ils ont un compte personnel de formation, ils peuvent bénéficier. Autrement, effectivement, il y a un coût. Nous, on est tous bénévoles, mais en gros, on fonctionne souvent grâce à l'apport d'argent qui arrive vers nous par le biais de ces formations et des DPS, des dispositifs provisionnels de secours. Donc effectivement, l'individu qui veut se former chez nous, s'il ne peut pas bénéficier de ce CPF, il sera obligé de payer lui-même cette formation.
Vous avez en tête les différents montants pour avoir une idée ?
Oui, alors le PSC, le premier secours civique, c'est 70 euros la journée.
Donc 7 heures.
Voilà, de 7 heures. Et puis pour PSE 1 et PSE 2, c'est 350 euros la semaine par formation.
Ça donne une idée déjà.
Ouais.
Et vous travaillez aussi, si je ne me trompe pas, avec le lycée. Vous faites des formations dans le lycée d'altitude de Briançon.
Oui, alors ça, c'est en collaboration avec la PEP, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, qui nous ont sollicité l'an passé pour la première fois. Et donc, c'est avec une grande joie qu'on a pu former une cinquantaine d'élèves du lycée d'altitude. Au PSC1, donc une formation de 7 heures. Et ça, pour nous, c'est extrêmement valorisant parce qu'on se dit que toute cette jeunesse-là, ce sont des futurs acteurs du secours éventuellement. Et puis surtout, si demain, il arrive quelque chose dans leur famille, au lycée, dans la rue, ils pourront agir. Et donc ça, c'est quand même très valorisant pour nos formateurs et puis pour les gens qui viennent se former.
Donc on a présenté deux de vos missions, le secours et la formation. Avant de parler de l'aide à la population, on écoute De Renaud, Mistral Gagnant.
Avec plaisir.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Les Mistral gagnants, les Mistral gagnants.
C'était Mistral gagnant de Renault, vous avez toutes et tous reconnu. Nous sommes aujourd'hui avec le président de l'Association de la protection civile des Hautes-Alpes, Bruno Monnier, dans Portraits d'Assaut. Nous avons parlé donc de l'histoire de la fédération et de l'association dans les Hautes-Alpes, de vos missions, en tout cas de deux de vos missions, le secours et la formation. Il en reste une dernière qui est l'aide à la population. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une garde obligatoire ou si c'est vous qui choisissez à quel moment vous allez aider sur telle ou telle action?
Alors non, il n'y a pas de garde particulière. Chez nous, dans notre organisation, on a un responsable des opérations. C'est Mme Stéphanie Berthieu, qui a été longtemps présidente départementale, qui habite sur la Grave, qui est en charge donc de faire une veille. Et elle peut être amenée par le biais de la fédération ou par la préfecture à solliciter l'ensemble de nos bénévoles sur un événement particulier.
Mais c'est toujours lié à un événement, suite à un événement qui nécessite l'aide, voilà, de la protection civile.
Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, quand il y a de nombreuses victimes, on peut penser à un accident d'avion. On est parti d'ailleurs il y a quelques années sur l'avion allemand qui avait percuté la montagne dans le 04. Un accident de train, un accident de car. Donc là, les moyens de l'État vont être bien sûr dépêchés sur place rapidement. Et puis ensuite, devant un nombre de victimes importantes, il va des norias vont se mettre en place.
C'est-à-dire des norias.
Alors les norias, en fin de compte, il y a la grande et la petite noria. Alors la petite noria, c'est de prélever les victimes sur la zone du sinistre pour les amener à un PMA, un poste médical avancé, où là, des médecins vont trier les victimes en urgence vitale relative ou absolue. Et à ce moment-là, par la suite, eh bien, il y a la grande noria qui se met en place, où là, les victimes vont être prélevées du PMA, du poste médical avancé, pour être rapatriées ou en hélicoptère ou en ambulance vers les centres hospitaliers les plus proches de l'événement. Donc nous, on peut être amené à intervenir sur la petite noria et la grande noria.
Parfois, il y a des événements qui peuvent se dérouler à l'étranger. La France intervient. Vous êtes, vous, amené, même vous, bénévole des Hautes-Alpes, à y aller?
Ah oui, complètement. Donc, tant mieux, ça fait un moment qu'on n'est pas parti, mais il y a quelques années, on a fait donc l'événement dramatique du tsunami du Sud-Est, en Asie, où là, il y a des bénévoles de chez nous qui sont partis. On a eu aussi le tremblement de terre à Haïti, où un bénévole est parti, mais là, pas pour faire du secours. Et donc, j'en profite pour lui rendre hommage, M. Jacques Roux, qui est décédé aujourd'hui, qui, lui, était un charpentier, bénévole chez nous, et qui avait mis en place une structure pour faire une petite école préfabriquée. Et là-bas, il en a fabriqué plusieurs, d'ailleurs, qui ont fait école, parce que son modèle, ses plans ont été repris dans plusieurs territoires où il y a eu des tremblements de terre ou des tsunamis. Et donc, bon, il était parti là-bas pendant plus de 2 mois pour mettre en place ces structures comme ça, amovibles.
Mais il est quand même parti avec sa casquette de la protection civile.
Complètement, oui. Parce qu'on peut faire du secours, mais aussi on peut venir en aide aux populations pour les loger, pour les nourrir, leur donner à boire, etc.
Oui, voilà, c'était ma question suivante, en quoi ça consiste de venir en aide aux populations?
Eh bien, l'urgence, on y va de moins en moins. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas armés, nous les bénévoles, comme les professionnels, à prendre en plein visage une certaine forme émotionnelle qui est importante quand même. Quand on arrive sur une zone de sinistre, ce n'est pas évident. Donc effectivement, l'État a dit, bon, dans un premier temps, on va envoyer les professionnels du secours. Et puis dans un deuxième temps, quand il y aura un peu moins d'urgence, on va envoyer plus les bénévoles. Donc là, ça peut être du déblaiement, ça peut être reloger les victimes, leur donner à boire, les réconforter. Il y a le soutien psychologique aussi. Il y a tout un travail qui est fait suite à cet événement qui est quand même important.
Donc on a fait le tour de vos missions. Je vous propose de parler de votre fonctionnement en interne. Vous êtes que des bénévoles? Déjà, ça c'est important quand même de le rappeler. Combien êtes-vous dans le département?
Alors aujourd'hui, on est 45 adhérents.
Et ces bénévoles, ils sont formés quand ils arrivent. Et comment vous vous organisez en interne? Qui fait quoi?
Ouais, alors ils ne sont pas tous formés parce qu'on est très heureux, nous, d'accueillir des gens. Alors il faut simplement avoir 16 ans. Et nous, à l'intérieur de la protection civile, on leur propose de passer le PSE1 et le PSE2. Bien sûr, là, on ne va pas leur demander un règlement, puisqu'ils vont faire partie de nos équipes. Et donc, à partir de là, eh ben, on va les faire petit à petit, on va les intégrer dans les équipes de secours, plutôt avec des gens qui ont de l'expérience. On ne va pas mettre 4 jeunes ensemble sur un poste de secours, mais plutôt 1 ou 2 jeunes avec 2 ou 3 plus anciens. Et petit à petit, ils vont se faire une expérience. Et puis après, comme tout le monde, tous les ans, ils vont être recyclés. Et ils vont assister à plusieurs journées de formation dans le cadre de nos journées cohésion.
Et vous laissez le choix aux uns et aux autres de se positionner sur les postes qu'ils veulent, le temps d'investissement aussi, ou est-ce qu'il y a quand même une règle ?
Oui, alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a un outil informatique qui s'appelle iProtech, où en gros notre responsable Philippe Feutrier, qui fait un travail remarquable d'ailleurs, je tiens à le souligner, met en place tous les postes de secours qui sont demandés par les organisations. Et les gens s'inscrivent ou pas. Il n'y a pas de permanence chez nous. Les gens font, quelqu'un qui n'aime pas le VTT, il ne va pas aller sur une course de VTT. Mais par contre, il peut s'inscrire s'il aime bien la musique, sur un concert, etc. Donc on laisse libre choix aux gens de s'orienter vers tel ou tel poste de secours selon sa disponibilité et puis ses goûts aussi.
Il n'y a pas de permanence, mais je reviens sur l'aide aux personnes dont on parlait, c'est quand même obligatoire. Quand on vous réquisitionne, vous êtes obligé d'y aller ?
Alors non. En fin de compte, c'est selon la disponibilité des uns et des autres. C'est-à-dire Stéphanie, elle, tout de suite, on a un groupe WhatsApp, donc elle va demander les gens disponibles. Et puis, selon le retour qu'elle a de ces gens disponibles, elle va pouvoir reprendre contact avec la préfecture ou notre fédération pour dire, on a tant de bénévoles avec tel matériel disponible, prêt à partir dans les 48 heures, 24 heures, etc. Mais si on ne peut pas fournir, on ne peut pas.
Oui, donc ça repose quand même sur la motivation des bénévoles. Qu'est-ce qui vous motive ?
Moi, je pense que c'est déjà... Pour être secouriste, de toute manière, je pense qu'il faut déjà aimer les gens, déjà. Je pense qu'il faut être bienveillant. Et puis, le travail aussi en collectivité. On est un travail d'équipe. Il y a souvent une bonne ambiance. On a aussi cette façon de faire où ça reste quand même du bénévolat, même si on fait des choses très sérieusement encadrées par des services de l'État. Ça reste quand même quelque chose d'extrêmement familial. On s'y trouve bien parce qu'en fin de compte, je suis président de l'association, mais en fin de compte, chacun a son mot à dire. Il faut bien un président, il faut bien un conseil d'administration, mais chacun a son mot à dire. L'association de protection civile des Hautes-Alpes appartient à tous les adhérents. Donc, tout le monde, à un moment donné, peut s'investir dans telle ou telle mission, peut dire ses avis, etc., qu'ils soient positifs ou négatifs, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on avance.
D'ailleurs, vous disiez, j'y pense, que tout le monde n'est pas obligé d'être formé si les bénévoles ne veulent pas aller sur les secours ou en tout cas sur les soins. Que font les bénévoles qui ne sont pas dans le secours et dans le soin ?
Mais par exemple, l'exemple qui me vient aux yeux tout de suite, qui me vient à l'esprit, pardon, tout de suite, c'est pour la gestion de nos finances. On a Madame Méano, qui était une ancienne responsable des banques populaires de la vallée, qui est notre trésorière et qui n'est pas secouriste, mais qui s'investit et qui depuis des années, s'occupe de nos finances, par exemple. On peut avoir du secrétariat, on peut avoir ce genre de missions administratives.
Plutôt administratives, oui.
Voilà. Et là, il faut quand même des gens quand même un peu compétents, puisqu'on est des bénévoles, mais on fonctionne un peu quasiment comme des professionnels.
Oui, c'est quand même une association particulière pour ça, c'est que vous êtes vraiment à la limite de la profession et ça vous demande un investissement énorme quand même.
Ah oui, les gens de l'association passent quand même un temps assez important, souvent au détriment de leur famille d'ailleurs, souvent je les félicite et je leur suis très reconnaissant, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de tâches administratives et effectivement, ça peut représenter des fois quasiment un mi-temps.
Ah oui,
pour
même.
Celui qui a un peu de temps.
C'est un bénévolat de passion et qui demande...
Ouais, exactement. Je crois que les gens qui s'investissent là-dedans, c'est qu'ils aiment vraiment les gens, ils aiment le secours, ils aiment ce travail de collectif.
En termes de matériel et de moyens dont vous disposez, vous disiez donc que vous aviez des ambulances, parfois des véhicules qui vous sont donnés. Y a d'autres moyens dont vous disposez, importants, que vous utilisez au quotidien ?
Alors déjà, tout le matériel de secours, ça c'est important parce que, en fin de compte, pour faire du secours en France, on est obligé, ce qu'on appelle, à avoir des lots. C'est un lot A, un lot B, un lot C. Donc ça, c'est réglementé par l'État, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc là, il faut vraiment du gros matériel, c'est-à-dire du matériel d'immobilisation, du matériel de réanimation, de l'oxygénothérapie. Hein, donc tout le matériel que l'on peut trouver dans un véhicule de sapeur-pompier, ben, nous, on est tenu de l'avoir, parce qu'on n'aurait pas le droit de faire du secours sans ce matériel qui nous est imposé, et qui est de toute manière indispensable pour faire du secours. Hein. Donc c'est du matériel qui a un coût. Hein, les bouteilles d'oxygène, il faut les louer, il faut les remplir. Voilà, les véhicules, il faut les entretenir. Enfin bon, il y a un défibrillateur, c'est quand même pas assez onéreux.
Et comment vous vous financez ?
Alors nous, on se finance d'une part par la facturation des postes de secours, hein, dont on est bénévole, mais on facture quand même aux organisations la partie secours. Et puis nos formations, hein, on demande aux gens qui viennent se former chez nous de participer aussi à leur formation. Et puis on a quelques subventions. Le conseil départemental des Hautes-Alpes nous aide à hauteur de 3 à 4 000 euros par an. La mairie de Briançon fait un effort considérable, puisque c'est 2 000 euros chaque année. Et puis là, eh bien, on est très, très agréablement surpris, puisque d'autres communes, Monnetier-les-Bains, Saint-Chaffré, La Grave, L'Argentière-la-Bessée, hein, nous ont offert entre 400-500 euros annuels, donc c'est pas rien pour nous. Hein. Et puis on a EDSB, la régie électrique, qui nous fait régulièrement un don, comme elle le fait à plusieurs autres associations, de 1000 euros par an, ce qui nous a d'ailleurs permis tout ça, à acheter une ambulance d'occasion, puisque l'ambulance qui devait nous être offerte par les sapeurs-pompiers est partie, à juste titre, en Ukraine. Donc on a récupéré une vieille ambulance dans le 06.
Oui, il y a d'autres réalités qui viennent, voilà, qui viennent réquisitionner des moyens, on imagine bien. Alors, avant de finir cette émission, quand même un mot pour vous aider, puisque donc vous fonctionnez par du bénévolat, on imagine que vous recherchez des bénévoles. Comment on peut venir vous aider ? Comment ça marche ?
Alors, effectivement, hein, les bénévoles sont toujours accueillis avec enthousiasme à la protection civile. Hein. On est 45, mais je vous ai dit qu'on faisait 53 postes de secours, mais on en refusait une bonne quinzaine. On ne peut pas tous les faire par manque de bénévoles. Donc effectivement, hein, on accueille avec vraiment beaucoup d'enthousiasme tous ceux qui veulent nous rejoindre. On les formera. Hein. Et puis pour les autres, s'ils veulent nous aider, ils peuvent toujours faire des dons. Hein, la protection civile, envoyer à la protection civile des Hautes-Alpes, place Paul Blain, 0500 Briançon. Hein, et puis venir se former, parce que quand on vient se former, eh bien, on participe aussi à quelque part au maintien de nos activités.
Vous avez besoin de personnes qui ont des compétences ou des prérequis ?
Non, il faut simplement aimer le travail d'équipe. Hein. Alors effectivement, hein, on fait du secours. Pour ceux qui vont faire du secours, on voit tout de suite si les gens sont faits pour ça ou autre, mais ça, on le verra sur le terrain. Hein. Il y a des gens, on a formé des gens, puis ils se sont aperçus que la vue du sang, par exemple, tout simplement, pouvait les indisposer. Donc là, effectivement, on peut pas, c'est compliqué, hein, mais on les occupera à faire autre chose. Il y a bien d'autres activités. Hein. Et voilà, donc non, on accueille tout le monde avec beaucoup de plaisir.
Et pour vous contacter, venir vous voir, on disait donc, vous vous situez place Paul Blain à Briançon. Vous avez un site internet, une page Facebook.
Oui, on est sur Insta aussi.
Instagram.
Voilà.
Protection civile 05.
Voilà, exactement.
Et vous avez des projets futurs ou de prochaines dates importantes ?
Ouais, ben justement, ben merci de m'en donner l'occasion sur cette antenne. Hein. Ouais, le 5 avril. On organise dans nos locaux, rue Paul Blain à Briançon, un PSC, un premier secours civique, donc je vous disais tout à l'heure, hein, qui dure 7 heures, donc ça sera de 8h30 à 16h. Hein. Et puis un peu plus tard dans la saison, du 3 au 7 novembre, on fera un PSE1, hein, un premier secours en équipe de niveau 1. Donc là, effectivement, si des gens veulent venir s'engager comme bénévoles, il leur faut ce diplôme. Hein. Et puis il se suivra la semaine d'après, du 10 au 13 novembre, un PSE2. Et donc là, il peut y avoir une inscription en ligne directement, en tout en minuscule, formation avec un S, point protection-du-6-civil.org. Formation, tout en minuscule avec un S à la fin de formation, point protection-du-6-civil.org.
On espère que vous avez eu le temps de l'écrire. Sinon, ce sera sur le site internet de Fréquence Mistral en accompagnement de cette émission qui sera mise en replay, évidemment. Et quand même, on a oublié de le dire, quand vous êtes sur des événements, si on veut vous voir, vous êtes dans une tenue qui est très significative en orange et vert et bleu.
Et bleu.
En orange et bleu, pardon.
On a deux tenues.
Il y a deux tenues.
Fédération. Plus au niveau, quand on intervient plus sur la voie publique. Hein, puis quand on intervient en altitude, on a mis en place des tenues montagne, qui sont des tenues avec des Gore-Tex, pour être protégé des intempéries éventuellement, pantalon bleu marine et puis un haut avec une doudoune bleue et un Gore-Tex orange.
Eh bien voilà, au moins on peut vous visualiser sur les événements et on n'oublie pas que vous faites partie de la protection civile. Merci Bruno Monnier, donc je le rappelle, vous êtes président de l'association de protection civile des Hautes-Alpes.
Merci Marion de nous avoir accueillis aujourd'hui, ça permet aussi à nos concitoyens des Hautes-Alpes de mieux nous connaître, alors merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Et le prochain portrait d'assaut, ce sera dans 2 mois, le dernier jeudi de juin, sur Culture Écoactive, une association pour la sensibilisation à l'environnement par l'art. Bonne soirée à toutes et tous.
Merci, au revoir.